tous, merci d'écouter Radio J. Il est 16h et c'est l'heure d'un nouveau journal. Bonjour à tous, on ouvre ce journal avec un drame au sein de l'armée israélienne. 5 parachutistes ont été tués par des tirs de Tsahal dans le nord de la bande de Gaza, Pascal Sunshine.
Un événement d'autant plus tragique qu'il s'agit de ce qu'on appelle un tir ami. À Jabalia, l'équipage d'un tank n'a pas identifié à temps un poste de commandement avancé installé par un bataillon de parachutistes dans un immeuble désaffecté. En voyant du mouvement et le canon d'un lance-missile passer par une fenêtre, les soldats ont cru à des terroristes qui allaient les attaquer et ont tiré 2 obus contre le bâtiment. L'explosion a donc fait 5 tués et 7 blessés, dont 3 dans un état grave. Tsahal poursuit en tout cas son enquête.
Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, plus au sud de la bande de Gaza, près de 600 000 Palestiniens ont fui Rafah depuis le début de l'opération terrestre dans la région. 600 000 d'après l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. De son côté, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé une intensification des opérations à Rafah avec l'envoi de troupes supplémentaires sur place. Le Hamas n'est déjà plus en capacité de produire des armes et n'a plus de réserves. Nous sommes en train de l'asphyxier, a-t-il précisé. Sur le front nord, le Hezbollah a lancé 40 roquettes contre le Golan ce matin. Plusieurs missiles ont été interceptés par Tsahal, une attaque massive qui n'a fait ni dégâts ni blessés. Plus tôt dans la journée, après la chute d'un drone dans la région de Tibériade, l'armée a visé des cibles du groupe chiite à l'est du Liban, sur la plaine de la Bekaa. Les dirigeants arabes se réunissent à Bahreïn pour un sommet dominé par la guerre à Gaza. Les chefs d'État et de gouvernement de la région s'étaient déjà vus en novembre à Riyad en Arabie Saoudite. Ils avaient alors condamné l'offensive d'Israël tout en s'abstenant d'énoncer des mesures économiques et politiques punitives contre Jérusalem. Le sommet de Bahreïn pourrait donc cette fois être différent dans un contexte plus favorable à l'idée d'une solution à 2 États au conflit israélo-palestinien. Le gouvernement va demander des sanctions plus lourdes contre les émeutiers et les pillards en Nouvelle-Calédonie. À l'issue du Conseil de défense présidé par le chef d'État Emmanuel Macron ce matin, le Premier ministre a réaffirmé l'envoi de 1000 membres des forces de l'ordre supplémentaires en Nouvelle-Calédonie, portant leurs effectifs à 2700. Gabriel Attal a aussi rendu hommage aux 2 gendarmes qui ont perdu la vie dans le cadre des émeutes qui secouent l'archipel depuis lundi. On l'écoute.
Je rappelle que 2 gendarmes sont décédés. Un gendarme a été tué hier d'une balle dans la tête. Un autre gendarme est décédé aujourd'hui à la suite d'une erreur de manipulation d'une arme. Vous imaginez bien l'état de fatigue et de tension qui règne dans nos forces de sécurité sur place et qui entraîne évidemment un accident comme celui que nous avons connu. Derrière ces 2 gendarmes décédés, ce sont 2 vies qui sont parties. Ce sont des proches, des familles. Et vous me permettrez évidemment de renouveler mon soutien, ma solidarité, celle de mon gouvernement à l'endroit des proches et des familles des 2 gendarmes qui sont décédés. Évidemment, soutien et solidarité à l'ensemble des forces de sécurité intérieure, à l'ensemble des agents publics qui sont actuellement mobilisés en Nouvelle-Calédonie, avec, je le dis, un courage, une bravoure qui force le respect et l'admiration.
Le Premier ministre à l'issue du Conseil de défense sur la situation en Nouvelle-Calédonie en début d'après-midi. La Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu prononcé pour les gendarmes qui ont interpellé Adama Traoré en 2016. Cet homme était mort 2 heures après son interpellation. Cette décision déshonore l'institution judiciaire, a commenté auprès de l'AFP l'avocat de la famille Yacine Bouzrou, annonçant un pourvoi en cassation. Nous nous félicitons que la justice ait à nouveau reconnu la totale innocence des 3 gendarmes, ont commenté les avocats des militaires. Enfin, l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, passe devant les ressources humaines de Radio France. Écarté de l'antenne depuis 2 semaines, il est convoqué ce jeudi pour avoir par 2 fois comparé le Premier ministre israélien, je cite, à une sorte de nazi mais sans prépuce. Guillaume Meurice risque un licenciement. Dimanche, en soutien à l'humoriste, de nombreux salariés de la radio s'étaient mis en grève et les programmes avaient été suspendus. Radio J.
Radio J.
Bonjour.
c'est Liz Goodman.
Le 10-11, Liz Goodman.
Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, Divertissement, Communauté.
Radio J. 15h-16h30. Cyril Sarah Cohen.
Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Samuel Pintel, pour son livre « L'enfant 10 yeux » sorti aux éditions HarperCollins. Bien évidemment, si vous voulez ce livre, il suffit de nous téléphoner sur l'antenne de Radio J, sur le numéro donné tout à l'heure pour pouvoir gagner cet ouvrage. Bien évidemment, je vous le donnerai dans une poignée de secondes. J'aimerais qu'on poursuive cette émission, Samuel Pintel, avec une séquence intitulée « L'introspection ». Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » J'aimerais que nous fassions cela maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître, si vous le permettez. La première est celle-ci. Samuel Pintel, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, que changeriez-vous ?
Il faudrait quand même changer beaucoup de choses. Pour avoir une vie, sereine, entourée d'une famille et d'autres familles qui aujourd'hui n'existent plus. Donc, j'ai l'impression de être presque tout seul après cette guerre.
Quel conseil vous donneriez à peut-être au petit Samuel pour grandir ?
Espérer que les choses puissent se faire comme il l'attend, comme il le souhaite, et pas comme elles se sont produites.
Malgré tout, Samuel Pintel, avez-vous eu un plus bel âge dans votre vie ?
Question difficile. Ça sera le retour de mes parents, et puis le renouveau, le départ cette fois, dans la vie, avec l'avenir devant soi.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, mais que pour autant vous ne faites pas forcément ?
J'essaie de faire ce qu'il faut, enfin, j'estime être nécessaire de faire, je le fais. Je pourrais faire plus, évidemment, mais bon, déjà, bon, je ne vais pas me satisfaire de ce que j'ai fait, toujours être insatisfait, mais bon, c'est déjà, disons, satisfaisant.
Et justement, une chose réalisée dont vous vous souviendrez toute votre vie ?
Bah, ma famille, voilà. Tout dédié, mes enfants, mes petits-enfants, qui eux reprennent le flambeau et qui perpétuent un peu notre génération.
Si je vous parle d'amour alors, Samuel Pintel, comment cela résonne en vous ?
Il y a de l'amour autour de moi et je suis comblé avec ma famille.
Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous, Samuel Pintel ?
Il faut leur demander. J'essaie de faire au mieux, de répondre au mieux et de surtout de m'intégrer à ce que eux ont subi, et je pense surtout aux enfants déportés au camp de Bergen-Belsen. Je suis lié avec cette amicale. Je ne suis pas un enfant, je suis un enfant de prisonnier de guerre, mais je ne suis pas allé à Bergen-Belsen. Néanmoins, je me considère comme très proche d'eux.
C'est votre mère qui y était ?
Oui.
Donc forcément. On retrouve votre livre, Samuel Pintel, « L'enfant 10 yeux ». Tu parleras de « Nous, la promesse d'un rescapé des rafles » aux éditions HarperCollins que Radio J vous offre pour gagner cet ouvrage. C'est très simple, il faut téléphoner gratuitement au 01 77 62 72 89. 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. C'est tout. Et le premier arrivé sera le premier servi. Tout de suite, on découvre ensemble le coup de cœur sur Radio J.
Radio J. 15h-16h30, Cyril Sarah Cohen.
Bonjour baroudeur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes auteur, compositeur et interprète et on va découvrir ensemble un premier single de votre EP qui s'intitule, premier EP qui s'intitule Du quatrième étage, Lettre à un ami. Et on revient ensemble sur Radio J.
T'as toujours passé le temps avec tes petits boulots, juste assez pour le loyer, la weed et l'apéro, bercé par l'ennui et partisan du moindre effort. T'as toujours envié les passionnés et les idiots d'avoir un jour découvert le métier qu'il leur faut, une raison d'arrêter le bédo, toi pas encore. Tu te sens capable de tout faire, c'est bien, mais tu ne sais pas quoi, alors tu ne fais rien. Tu aimerais avoir un truc, un machin qui te rende heureux et auquel tu tiens. Peut-être un projet, peut-être un jardin, peut-être une passion pour le grec ancien. Une bonne raison de te lever le matin qui te permette un peu de croire au destin.
Titre Lettre à un ami de notre invité aujourd'hui, Baroudeur, qui nous fait le plaisir d'être notre invité coup de cœur. De quoi parle votre premier single et à qui il s'adresse? Parce qu'on peut se poser la question.
J'ai plusieurs réponses à cette question. Lettre à un ami, c'est le titre, il a été choisi parce que, un peu comme quand, peut-être des fois à l'école, on pose une question pour un ami. Et en fait, souvent, c'est pas vraiment pour un ami,
c'est pour soi.
Un peu pour soi, mais j'aimais bien cette ambiguïté. Et bah, par ailleurs, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cette chanson et qu'on est nombreux à se sentir appelés vers tout un tas de choses, à s'intéresser à un sujet et puis à un autre. Et puis en fait, dans cet éparpillement, finalement, se culpabiliser de notre inaction on est nombreux à être traversés par ce sentiment d'immobilité.
Baroudeur, votre EP s'intitule Du quatrième étage. De quoi parle-t-il en général? Si on peut englober ces cinq titres, est-ce qu'il y a un dénominateur commun ou vous avez eu envie d'aller un peu partout? Et pourquoi alors Du quatrième étage?
Eh bien, je pense que je l'ai appelé Du quatrième étage parce que c'était la seule chose que ces morceaux partageaient, à savoir qu'ils ont été faits du quatrième étage.
De chez vous?
De chez moi.
Vous êtes complètement indépendant, vous êtes produit, comment ça se passe?
Ouais, bah c'est ça, au quatrième étage, j'ai
un
petit appartement où il y a une mezzanine qui normalement, je pense, a été plutôt aménagée pour recevoir un lit. J'ai pas mis de lit, j'ai mis mon lit sous l'escalier comme Harry Potter et j'ai installé des micros, mes instruments de musique et j'y fais mes chansons.
Comment on peut définir votre univers, vous direz?
Comment revenir au temps de nos rêves? Je pense que d'une manière générale, j'accorde pas mal d'importance au texte. C'est important pour moi de faire des chansons qui ont du sens. Je pense pense qu'il y a déjà beaucoup de très belles chansons qui ont été écrites et j'ai besoin de la certitude que quand j'écris une chanson, ça, il y a un regard au moins, quelque chose qui est apporté. Voilà.
Ce surnom, parce qu'on connaît votre vrai prénom, Baroudeur, pourquoi ?
Ouais, aussi pour plein de raisons. La première, je pense que c'est justement de par la différence entre tous les morceaux. Et je me rends bien compte que voilà, que c'est ce dont parle l'être un ami. Je suis quelqu'un de très éparpillé. Je fais des chansons comme Sérotonine qu'on entend, parfait. Je fais des chansons qui peuvent être très électroniques, très tranchantes, d'autres plus douces. Et j'avais besoin de m'autoriser à barouder un petit peu. Et j'aime bien cette figure du baroudeur pour qui le voyage est une sorte d'état permanent.
On va se permettre de barouder alors.
Je sais que t'as fait ton choix, mais j'ai des choses à dire, alors écoute-moi. Ex-copine, tu es partie un jour, sans moi il serait seul attendant ton retour. Il n'a plus de femme, plus de fun, plus de maille, plus d'espoir, moins de peur que de mal. Plus alcoolique qu'anonyme, une aspirine dans son verre de gin. Je récure sa cuisine, il occupe le séjour en recherchant l'amour dans les magazines. Je m'en occupe en partie car il n'a plus de potes, et en contrepartie il me dans les bottes. Il déteste le monde et le monde le déteste depuis que t'es parti sans demander ton reste. Sérotonine, s'il te plaît reviens, il ne va pas bien, tu lui manques. Sérotonine, je t'en prie reviens, j'ai vraiment besoin de vacances. Sérotonine, s'il te plaît reviens, il ne fait plus rien, tu lui manques. Sérotonine, je t'en prie reviens, j'ai vraiment besoin de vacances. Sérotonine, victime de ton succès, depuis qu'on sait que tu soignes.
On entend bien cet univers éclectique. D'ailleurs, vous le dites, hein, vos influences, elles sont très variées, de Brassens à Henri Salvador, jusqu'à même à Avishai Cohen.
Ouais, j'écoute. Les algorithmes des applications musicales n'y comprennent pas grand-chose. J'écoute pas mal de jazz, j'écoute pas mal d'électro, de musique plus ou moins, des fois très douce, des fois pas du tout. Globalement, je suis quand même assez sensible aux mots, mais pas que.
Et ben, on va écouter dans un instant un autre titre, justement, qui s'intitule « De sans toi » pour avoir un panel de votre univers plutôt large, Baroudeur.
Tu es là, grelottante dans le froid, sur une caisse de bois, la main ouverte.
Donc votre univers Baroudeur sur l'antenne de Radio J, l'occasion de rappeler que ces titres que nous venons d'écouter sont issus de votre premier EP qui s'intitule Du quatrième étage, sorti le 1er mars, avec des vidéos pour accompagner chaque titre tout du long. Vous commencez déjà à préparer la suite, je crois savoir.
Ouais, exactement. En fait, j'ai beaucoup de chansons dans les tiroirs et là voilà, maintenant j'ai envie de les sortir, j'ai envie de les montrer, de les faire écouter et de les partager autour de moi.
Avec certainement un deuxième EP prochainement à la rentrée, en tout cas dans quelques mois, c'est ce qu'on vous souhaite. Il y aura quelques dates de concerts à venir, elles seront annoncées sur les réseaux sociaux, donc j'appelle nos auditeurs à venir vous rejoindre sur Instagram, sur baroudeur-abc, sur Facebook c'est baroudeur off comme officiel avec 2F, et sur YouTube c'est baroudeur@baroudeur. Un petit mot de la fin, si jamais vous avez besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce comme on dit, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir vous exprimer.
Un coup de main, un coup de pouce, je peux parler. On entend la musique qu'on entend actuellement, y a peut-être un mot à dire là-dessus. Elle s'appelle « De sans toi » et c'est une chanson qui est issue d'une rencontre que j'ai faite avec un homme qui vivait dans la rue il y a plusieurs années, durant un voyage. Et j'ai vraiment été marqué par son témoignage, parce qu'en fait, quand j'ai discuté avec lui, Il a complètement balayé. J'appréhendais beaucoup les questions de regard de l'autre, d'hygiène, de froid, de faim, de tout. Et en fait, pour lui, à ce moment-là, ce qu'il me disait, c'est que c'était pas ça le plus difficile. Il m'a dit, mais non, mais le plus difficile pour moi, là, c'est que c'est quand t'es amoureux d'une personne qui vit dans la rue aussi. Et que t'aimerais juste être à deux avec cette personne pour faire évoluer la relation. Et puis tu peux pas. Et vraiment, je me suis pris une énorme claque à ce moment-là parce que j'ai réalisé que j'avais pas du tout envisagé ça. Et je m'en suis voulu parce qu'en y repensant, évidemment, l'amour, être aimé et aimer quelqu'un, c'est un besoin aussi fondamental que de se nourrir. Et voilà, j'ai réalisé à ce moment-là qu'on n'était jamais deux sans toi. Et théorité. C'est la chanson qu'on écoute.
Merci beaucoup pour ce joli témoignage, j'ai envie de dire, sur l'antenne de Radio J. Merci Baroudeur d'avoir été notre coup de cœur du jour à retrouver sur les réseaux Baroudeur-ABC, notamment sur Instagram et sur YouTube @Baroudeur. Merci beaucoup d'avoir été notre invité coup de cœur.
Merci de votre accueil.
Tout de suite, c'est le portrait de notre invité sur Radio J.
Cyrielle Sarah Cohen.
Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Samuel Pintel, on prend ses minutes musicales pour laisser le temps également à Nathalie Daudrieux de rédiger un portrait à votre image, une synthèse de tout ce que l'on s'est dit dans cette émission. Et donc, c'est à vous, Nathalie Daudrieux. Bonjour.
Bonjour Cyrielle, bonjour Samuel Pintel. Effectivement, j'ai observé et écouté attentivement votre interview aujourd'hui et avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotion. Voilà, les larmes me venaient lorsque j'étais en pleine écoute. Et donc, je vous remercie pour ce témoignage vraiment touchant et plein de sensibilité. Alors, l'émotion était présente, bien sûr, chez moi, mais je pense aussi chez les auditeurs et aussi dans votre voix. Voilà, mon métier, c'est d'observer le corps et l'esprit. Il y avait cette toux qui pouvait se manifester parfois comme pour éclaircir un peu la voix, ou bien tout simplement tant la gorge se serre que parfois les mots prennent du temps à sortir. Et vous l'avez dit, il vous a fallu un temps de silence pour pouvoir mettre en forme toute cette histoire et tout ce travail de recherche. Et ce qui m'a vraiment frappée dans votre partage aujourd'hui, c'est cette mémoire extrêmement précise, très imagée, de toutes les époques de la vie, également, vous le disiez, avant la guerre, mais aussi, voilà, vraiment tout ce contexte dans lequel c'est arrivé, les dates, les odeurs, les images, les visages, les noms, tout ce drame, même la notion du temps est assez claire, hein, l'anecdote de ce vélo qui vous emmène dans cette remorque. Voilà, le vécu dans le corps, je dirais le contexte, quand un drame est vraiment vécu dans la chair et dans le cœur, je pense qu'il marque l'âme et les générations à venir. Donc il y a vraiment voilà, cette émotion très vive, très vivante que j'ai pu sentir aujourd'hui, que je peux refléter. Et évidemment, j'ai été très en contact avec votre enfant intérieur aussi, surtout lors de l'anecdote de cet épisode où vous apercevez que vous ne savez pas où vous êtes, que vous êtes perdu, qu'il y a des questions évidemment très perturbantes pour un enfant. Où est ma mère? Qu'est-elle devenue? Où est-elle? Et surtout, elle ne pourra pas venir me chercher parce qu'elle ne sait pas où je suis. Et que ça vous a beaucoup travaillé. J'étais vraiment en contact avec cette blessure d'abandon très forte et qui marque la construction d'un enfant, évidemment, et toute la résilience qui a pu être la vôtre aujourd'hui. Évidemment, toute cette souffrance ne tombera pas dans l'oubli, vous le dites tout à l'heure, il y avait vraiment, j'ai le devoir d'en parler, un besoin de temps, bien sûr, mais le devoir pour la mémoire, par rapport à ces gens qui ont été tellement importants dans votre existence. Et comment se construire quand on a traversé ces horreurs, évidemment. C'est ce sentiment qui vous a beaucoup travaillé. Le contact aussi, le manque de câlins de votre mère, vous étiez habitué à recevoir le contact, la toilette faite par maman. Donc, brusquement, il y a quelque chose où on doit se débrouiller tout seul. Évidemment, vos pertes de repères, d'identité, de trouver sa place, toutes ces actions qui ont été posées, ne serait-ce que mettre des mots, mais aussi l'écriture de ce livre, font de vous quelqu'un de résilient, vous l'avez dit, et ça passe par votre engagement. Votre combat, votre besoin de vérité, d'aller combler les trous, je dirais, de l'histoire, de votre histoire personnelle, de votre mémoire, pour que chaque pièce du puzzle soit vraiment rassemblée. Il y a comme un besoin de comprendre, de mettre du sens, et que c'est comme un grand échiquier, dirais-je, que vous avez rassemblé. Vous avez dû faire un travail d'enquêteur, peut-être pour pouvoir venir réparer là où c'était possible de venir œuvrer. Il y a évidemment un besoin de justice. On n'incarne pas le survivant et le rescapé comme ça par hasard. Il y a vraiment un besoin d'aller porter la parole, d'aller porter des actions. Et c'est par ces engagements-là, par cet impact-là, que la transmission de l'histoire peut se faire grâce à quelqu'un comme vous qui est là, ici, qui nous en parle. J'ai trouvé aujourd'hui que cette mission de chercheur résonnait bien avec quelques mots, notamment espérance et résistance qui sont présents dans votre récit, dans vos partages aujourd'hui. Et peut-être que ces mots-là vivent bien ensemble et riment bien ensemble, parce que peut-être réparer le manque, la présence, fait perdurer et ça vit encore dans vos cœurs, dans les cœurs d'aujourd'hui. Donc je dirais merci beaucoup Samuel Pintel pour ce partage tout en sensibilité qui m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup.
Et merci à vous Nathalie Daudrieux, notre thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J.
Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Samuel Pintel d'avoir été notre invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je rappelle votre livre « L'enfant d'Izieux », dernier rescapé de la rafle d'Izieux pour votre livre donc sorti aux éditions HarperCollins, gagné par Alain Messas, Paris 17e. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin qui vous revient.
Vous remercier. Très impressionné par votre dissection de mon rencontre. Merci à toutes. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Consacré un temps aussi long à mon parcours.
Merci Samuel Pintel. Merci à l'artiste Baroudeur pour son premier EP du 4e étage à retrouver en streaming. Bien évidemment, sur YouTube également, d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Merci à mes chroniqueurs du jour, Hélène Kuttner, Annabelle Guiraud et bien sûr Nathalie Daudrieux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec la comédienne Myriam Boyer pour Juste un souvenir au Théâtre de Poche Montparnasse. À demain et belle journée à tous, toujours sur Radio J.
Jamais rien ne pourra effacer
Radio J.
Radio J, le 6-9, Hélène Aferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Hélène Aferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Montez le son.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Garçon, viens donne-moi la main. La nuit est belle, allons jusqu'au jardin, voir les étoiles dans le ciel. Petit Simon, tu vois tout là-haut, comme le monde semble beau. tu m'as parlé du chant nocturne sous un ciel étoilé, de pierre au rêvant à la lune. Petit Simon, c'est vrai qu'elles sont jolies, les étoiles de ta poésie. Mais tu verras, lorsque tu grandiras, un jour tu comprendras. Les étoiles ne sont pas toujours belles, elles ne portent pas toujours bonheur. Les étoiles ne sont pas toujours belles quand on les accroche sur. Lorsque tu grandiras, un jour tu comprendras, les étoiles ne sont pas toujours belles, elles ne portent pas toujours bonheur, les étoiles ne sont pas toujours belles, quand on les accroche sur.
Radio J. Excellente matinée à l'écoute de Radio J. Allez, on prend la direction de Jérusalem pour le direct d'Israël. Et ce matin, j'ai le grand plaisir d'être en ligne avec Cathy Choukroun, qui est journaliste sur Studio Qualita. Bonjour à vous, Cathy.
Mais bonjour Léa, un plaisir pour moi d'être avec vous.
Mais le plaisir est partagé. Alors Cathy, vous êtes journaliste sur Qualita, on connaît bien Qualita, qui est ce média, une sorte de valeur ajoutée au monde, hein, de l'intégration en Israël. Qualita qui est d'abord un média qui observe l'actualité en Israël sous le prisme de l'intégration. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler de vos constats sur la société israélienne. Quel est l'état d'esprit des Israéliens? Comment la société a-t-elle vécu, Cathy, les derniers événements commémoratifs? Et on sait combien ces journées sont importantes en Israël, Yom HaShoah, Yom HaZikaron et Yom HaTzmaout.
Ouais, ben ça a été, on va dire, d'abord on s'est posé la question comment on allait fêter ces jours-là, ou en tout cas commémorer ces jours-là. Certains se sont dit, est-ce qu'on va fêter le Yom HaTzmaout, est-ce qu'on a le cœur à le faire, et d'autres se sont dit, mais oui, bien sûr, on va fêter Yom HaTzmaout, on n'arrêtera jamais de fêter cette fête nationale et de célébrer la création de l'État. Bon, on va dire qu'avec toutes les pertes terribles qu'on a vécues, que ce soit dans la société civile ou chez les soldats, toutes les familles endeuillées, on va dire que le Yom HaZikaron, on va peut-être commencer d'abord par le Yom HaShoah, parce que vous savez très bien que ce sont une semaine un peu chargée. On commence par le Yom HaShoah avec cette fameuse sonnerie où tout s'arrête pendant une minute. C'est toujours extrêmement extrêmement émouvant. Si vous êtes sur la route ou si vous êtes n'importe où ailleurs, tout le monde se fige pendant une minute pour penser aux 6 millions de Juifs qui ont été persécutés. Mais cette année, ça a une ça a une résonance encore plus forte parce que malheureusement, on a voulu, le Hamas a voulu nous tuer à l'intérieur de nos frontières, il nous a tués à l'intérieur de nos frontières. Et ça, on va dire que c'est, ça a rappelé à beaucoup de gens ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment.
Oui, et même si, certains disent qu'on ne peut pas appeler ça Shoah, c'est une question de sémantique, mais en tout cas, c'est la première chose qui est arrivée à l'esprit des Israéliens tout de même.
Oui, on était vraiment, on est groggy, quoi. On va dire que depuis le 7 octobre, on est constamment dans ce genre de commémoration parce qu'on va à des enterrements, parce que nos enfants qui sont à l'armée ont perdu leurs copains, parce que nos amis avec qui on vit depuis qu'on est arrivé en Israël ont perdu leurs enfants, parce que tout le monde est touché de près ou de loin. Tout le monde a quelqu'un, et si les gens n'ont pas été blessés ou tués, ils sont déjà enrôlés, ils sont à l'armée, c'est compliqué.
C'est une inquiétude générale.
C'est pas simple, mais...
Alors, vous disiez...
Une inquiétude générale, on sent que c'est pas comme d'habitude.
Ouais. Alors, vous disiez que pour le Yom Hatzmaout, donc une semaine après le Yom HaShoah, il y a deux comportements que les Israéliens ont voulu adopter. Bah, d'une part, c'est plus fort que la joie n'y était pas, mais d'autre part, cette volonté coûte que coûte d'avoir de la joie malgré tout pour montrer finalement qu'Israël est toujours là.
Mais bien sûr, et puis je vais vous dire, certains ont redoublé de joie malgré les difficultés. Vous savez, il y a une tradition en Israël pour le Yom Hatzmaout, c'est que la veille, puisque chez nous tout commence la veille, donc la veille, eh bien les amis se rencontrent ou chez eux, ou dans des parcs, ou dans des bois. Ils font des grands feux de camp. Certains font ça, il y en a beaucoup. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient leurs enfants malgré tout mobilisés à Gaza pour l'opération de Rafia. Ils l'ont quand même fait. Ils ont quand même amené les guitares. Ils ont quand même chanté. Ils ont quand même célébré en chantant le Hallel, bien sûr, pour célébrer comme il se doit la création de l'État d'Israël, ce 76e anniversaire. Et malgré tout, parce qu'il faut continuer, parce que c'est ainsi que ça se passe ici.
Mais bien, oui, c'est ça.
Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont célébré. Il y a eu des gens qui ne l'ont pas fait, évidemment, mais beaucoup de gens célébraient. Cet anniversaire. Alors, ce qui est aussi un classique pendant ces gens-là, c'est qu'il y a, en tout cas pour le Yom Hatzmaout, il y a le grand concours biblique international. Mmh. Et là, c'était aussi très émouvant parce que celui qui a gagné était un élève d'un directeur d'école extrêmement connu à Jérusalem qui a perdu la vie à Gaza il y a quelques mois. Le directeur s'appelait Erkovitch. C'est une personnalité absolument incroyable. Et le fait que ce soit un de ses élèves qui ait gagné, alors vraiment, c'était extrêmement bouleversant et émouvant. On peut dire que toutes les cérémonies qui ont eu lieu, toutes les grands rendez-vous dont on a l'habitude pour ces trois jours de fête, entre guillemets, en tout cas de commémoration pour célébrer l'anniversaire de l'État d'Israël, avaient tous un lien avec le 7 octobre, malheureusement. Je suis obligée de parler du Pras Israël, parce que vous savez que pendant ces journées-là, on allume des flambeaux, les maswot, ça s'appelle en hébreu, et on donne aussi le prix d'Israël, on célèbre en fonction des catégories le prix d'Israël. Il y a un discours qui a été donné par Menachem Kalmadon, si vous avez entendu, je ne sais pas, du Tzevet Elchanan. Le Tzevet Elchanan, c'était trois soldats, Elchanan, malheureusement a perdu la vie à Béry. Ce Menachem et puis un autre soldat, ils étaient tous les trois, ils sont partis de leur propre chef pour venir en aide à leur frère qui était sous le feu des terroristes. Et il a fait un discours absolument bouleversant qui, je pense, fera date dans l'histoire d'Israël. Il a dit « Lama anachnupo », mais pourquoi nous sommes ici ? Il a expliqué en disant que Israël devait être la lumière des nations, qu'on devait, après les luttes intestines qu'on a vécues avant le 7 octobre, après les failles qui ont été mises à jour dans la société israélienne, eh bien, il a expliqué que quand il est arrivé à Béry, que les gens étaient terrorisés, terrés chez eux, une fois qu'ils avaient éradiqué tous les terroristes, il a raconté que pour les faire sortir de chez eux, pour leur expliquer qu'ils étaient en sécurité, les gens ont demandé, mais parlez-nous, on est beau qu'on entende votre accent. Et finalement, ils n'ont pas parlé, mais ils ont crié le schéma Israël. Et ce n'est que quand les gens ont entendu le schéma Israël qu'ils sont sortis. Et il a expliqué, ce jour-là, le schéma Israël n'était pas une tchila, n'était pas une prière, mais c'était un cri de rassemblement, un cri identitaire. Annie ou dit, je suis juif, et il n'y a rien d'autre qui compte. C'est ça, on est tous frères. Et ils l'ont vraiment ressenti dans leur chair, quoi.
Ouais, c'est vraiment
un peuple méritant. Enfin bref, oui. Un discours extraordinaire.
Ah, bien sûr. Et c'est vraiment un moment extraordinaire et qui n'a jamais été inédit. J'ai envie de dire inédit qu'Israël est en train de vivre. Et dans tout cela, il y a eu une petite lumière avec l'Eurovision, Cathy. L'Eurovision et le comportement admirable que
il y a eu beaucoup de lumière, Léa. Il y a eu beaucoup de lumière.
Oui.
C'est pas seulement Eden. Il faut dire que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de malheurs, beaucoup de catastrophes, beaucoup d'enterrements, beaucoup de peine, de chagrin, de perte terrible. Mais il y a aussi de la lumière, parce que forcément, de toute cette situation, naîtra un renouveau, une autre façon de vivre en Israël. On n'y est pas encore, mais ça va arriver. Mmh. C'est évident, ça se sent dans, alors peut-être pas encore dans la classe politique, mais ça se sent au milieu du peuple. Les gens veulent du changement, veulent que de tout ça sorte quelque chose de positif. Mmh. Et vraiment, j'espère que ce sera ça. Alors oui, Eden,
qui avait une prestation remarquable et où tout le monde a admiré son comportement, comment elle a réussi à se fermer aux huées et à toute cette polémique et ses comportements très agressifs envers elle pendant ces quelques jours et la prestation qu'elle a donnée. Est-ce que ça a donné du baume au cœur aux Israéliens dans la société en général?
Mais bien sûr, d'abord, Eden, on va dire qu'une étoile est née, franchement, elle est extraordinaire, comme à l'écran, elle est vraiment comme ça dans la vie. Alors, ce qui était très mignon, c'est qu'elle a été encouragée par Benjamin Netanyahou juste avant de partir, et ce qui a été super sympa, d'abord, elle a été accueillie à l'aéroport quand elle est revenue comme une star.
Oui.
C'était très émouvant, elle qui a été, on va dire, héroïne, qui n'a pas craqué sur la scène quand elle était huée ou spillée par tous ces antisémites. Quand elle est arrivée à l'aéroport, elle a pleuré dans les bras de ses parents. Elle est redevenue une jeune fille de 20 ans qui attendait le réconfort tout simplement et les bras de sa famille. C'était vraiment très émouvant. Et puis ce qui était très sympa, c'est qu'elle a été invitée dans une émission satirique très connue. Vous connaissez sûrement Eretz Nederet. Alors voilà, c'est vraiment, on va dire que c'est nos guignols, en gros, parce que ce sont des vraies personnes qui pastichent toute la classe politique, les artistes, tout le monde y passe.
Mm-hmm.
Et donc, elle avait ce soir-là son clone, mais vraiment, elle nous ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et c'était très, très drôle. Et à la fin de la prestation de cette actrice, eh bien, Eden est arrivée sur le plateau, tout le monde l'a applaudi, ils l'ont remerciée chaleureusement, ils l'ont embrassée. Puis elle s'est prise au jeu, hein, elle a refait, vous savez, sa posture quand elle se met en arrière, comme ça, ils ont dit, non, tu vas te casser. Enfin, c'était très drôle. Toute mignonne et adorée par les Israéliens.
Mmh. Alors justement, ce qu'a vécu Eden Golan en Suède, hein, ce qu'elle a vécu, c'est l'expression de cette augmentation exponentielle des actes anti-israéliens, antisémites. Il y en a eu en France, mais il y en a partout dans le monde. On le voit à travers les universités. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour la société israélienne, ou bien est-ce qu'ils sont vraiment trop préoccupés par la situation et le conflit dans leur pays plutôt que ce qui se passe à l'extérieur?
Non, bien sûr, on en parle, c'est vrai, bien sûr que tout le monde en parle, il y a des articles, mais je veux dire que le gros de l'information, c'est quand même ce qui se passe en ce moment à Rafia, c'est ce qui se passe dans notre pays du point de vue sécuritaire, ce qui se passe à la frontière du Liban. On a quand même des blessés, des morts tous les jours, là il y a encore une catastrophe aujourd'hui. C'est vraiment pour les Israéliens la préoccupation première. Évidemment que l'antisémitisme est inquiétant, mais je pense que ce qui se passe du point de vue sécuritaire sur le terrain chez nous, ça a vraiment dans le cœur des Israéliens la première place. Ouais.
Alors Cathy, je le disais, hein, vous êtes journaliste à Qualita et comme on le disait, Qualita c'est le média qui aide à l'intégration en Israël, qui observe la société israélienne à travers ce prisme justement de l'intégration. Alors concernant les Olim que vous êtes amenés à rencontrer, et ceux qui vivent déjà en Israël depuis quelques semaines, quelques mois, qui étaient là le 7 octobre, est-ce qu'ils sont totalement à l'unisson avec les Sabra, ou est-ce qu'ils ont une particularité parce que français d'origine, j'allais dire?
Bah, d'abord, vous savez que les Français sont en général très sionistes, donc on va dire qu'il y a eu un regain pour certains de sionisme. Bon, les réactions évidemment sont différentes parce qu'on est tous des êtres humains, des individus, et chacun réagit différemment. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient, on va dire, en stand-by ou qui voyageaient énormément, qui étaient entre deux, etc., et qui depuis le 7 octobre se sont attachés à Israël, ont changé leur vision des choses, ont compris que leur point d'ancrage c'était ici et nulle part ailleurs. Il y a eu beaucoup de réactions dans ce sens-là. C'est très touchant d'ailleurs, franchement. Et malgré les difficultés, malgré tout,
ça consolide. Vous voulez dire
les gens sont.
Ouais. Ça consolide.
Oui, ça consolide vraiment. Ouais. Ça consolide.
Mm-hmm. Alors,
ça a consolidé le lien que j'avais ici. Mm-hmm. Et j'aimerais pas être ailleurs, je crois.
Mm-hmm. Alors, donc Qualita qui est le relais avec Séolim de France et Israël, est-ce que depuis le 7 octobre, en tout cas, est-ce que vous avez des chiffres peut-être qui nous indiquent ou votre impression tout simplement, Cathy, sur le nombre, vous savez, le jour de Yom Ha'atzmaout, on fait un petit peu le décompte de la population. Alors, depuis la création de l'État d'Israël, il a été publié, 3,4 millions d'immigrants. Est-ce que vous, depuis le 7 octobre, vous avez vu concernant la France, un changement particulier au niveau de l'arrivée des Olim?
Alors, de l'arrivée, pas encore, c'est encore tôt. Il faut dire que l'année dernière a été une année très basse en termes d'alliage. Je crois qu'on était à peu près en 2023 1800 nouveaux immigrants, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais quand on en croit les prédictions, ou en tout cas les perspectives, les dépôts de dossiers à l'agent juif pour une année prochaine, on parle de 450% d'augmentation de dépôts de dossiers. Alors, est-ce que tout ça va être concrétisé? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience très importante parmi les Juifs de France, même si c'est pas toujours facile de tout quitter, de partir. Pour certains, les choses deviennent plus claires. Ça c'est certain, quoi. Mm-hmm. C'est sûr que vu ce qui se passe aussi dans les universités, de tout ce qui s'est passé, les parents aussi s'inquiètent pour leurs enfants. Et alors, tout le monde ne prend pas la décision de venir en Israël, évidemment, mais c'est vrai que ça a créé, on va dire, une augmentation très importante des demandes, ou en tout cas des projections d'Alia. Oui. On verra si ça va se concrétiser. On l'espère. Voilà, maintenant, nous, en temps normal, si vous voulez des chiffres, on s'occupe, on va dire, en tout cas à Qualita, d'environ 2000 nouveaux immigrants par an qui passent dans nos bureaux, que ce soit pour des services liés à l'emploi, pour essayer de trouver un boulot, pour refaire son CV, que ce soit pour avoir besoin d'un soutien pour les familles qui sont en difficulté, ou alors tout simplement pour des aides plus ponctuelles avec l'administration israélienne, avec la sécurité sociale, des choses qui sont nouvelles pour eux et qu'ils ne connaissent pas. Et donc, on a besoin parfois d'avoir un coup de main, un coup de pouce pour comprendre. Et c'est aussi le but de Qualita.
Oui, voilà, parce que
Qualita, il y a le studio, bien sûr.
Oui, c'est ça.
Mais il y a aussi la maison mère, l'association qui aide les nouveaux immigrants.
Donc Qualita, ça émet le matin, donc en direct. Comment les Israéliens, enfin les Français, les Olim qui arrivent en Israël et qui veulent écouter Qualita, comment font-ils? Peut-être en direct et peut-être aussi en podcast.
Donc, bien sûr, c'est très facile puisqu'en fait, on fonctionne un peu comme une web TV. Ça veut dire que toute la journée, les informations sont à disposition de tous sur les différentes plateformes. On les met sur Instagram, sur X, sur Facebook, bien sûr sur YouTube. Donc en fonction des supports sur lesquels les gens sont habitués à nous écouter, bah, vous tapez Qualita sur le support et puis vous tombez soit sur le direct, soit sur les podcasts qui sont, on va dire, ordonnancés par playlist. C'est assez facile. En fonction des sujets qui vous intéressent, bah, vous trouvez, bah, vous trouvez de tout, quoi. Parce qu'on traite, on essaie de traiter tout ce qui a trait à la société israélienne.
Bien sûr. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, donc l'association qui est vraiment, quand je dis le relais, c'est parce que effectivement, bah, un autre pays, c'est une autre administration, c'est un autre fonctionnement, et que bien souvent, ce sont les difficultés principales des Olim de France quand ils arrivent en Israël, c'est de savoir comment naviguer entre les différentes instances. Et ça, la Qualita peut clairement aider les gens.
Mais bien sûr, c'est le but. Et puis si Qualita n'a pas l'information aussi, par exemple, ça relève d'un autre domaine, eh bien le but aussi de Qualita, c'est de rediriger vers d'autres associations. Il y a à peu près 40 associations qui font partie de Qualita. Donc c'est vraiment, on essaie de travailler de concert avec toutes les institutions francophones qui existent, de façon à faciliter l'intégration des nouveaux immigrants. C'est le but, pour que les choses se passent bien et que les gens restent et se sentent bien en Israël. C'est vraiment tout ce que je souhaite au peuple juif. Voilà.
Et puis,
envie de venir, ben je leur souhaite de pouvoir réaliser ce rêve.
C'est un joli et un souhait que effectivement on va souhaiter également. Enfin, on va prononcer pour les gens qui veulent aller en Israël. Cathy, vous avez également, ben, bien sûr, à travers Qualita, rencontrez quotidiennement des gens. Est-ce que vous avez des histoires d'Olim à nous raconter, des exemples, des illustrations pour nous dire comment eh bien ça peut se passer pour une famille, pour des célibataires, peut-être privilégier une famille ou qui a vécu une histoire particulière.
Vous êtes dur parce qu'il y en a beaucoup. J'en ai rencontré énormément de par les émissions qui s'appellent Aliatori. Vous pouvez les trouver, où là c'est carrément c'est des gens comme vous et moi qui racontent leur histoire, qui racontent comment ils sont partis, pourquoi ils sont partis. Il y a toujours des éléments déclencheurs, c'est ça qui est intéressant. Il y en a tellement. Je pense à un petit, on va dire, un docteur assez jeune, hein, de 32 ans, qui est monté par amour en Israël parce qu'il avait rencontré sa dulcinée en France. Il n'avait pas prévu de venir en Israël et finalement il est venu en Israël. Il n'avait pas prévu de faire l'armée, c'était pas du tout à son programme. Et finalement, il avait fait l'armée, il n'avait pas prévu d'y rester. Et finalement, il continuait de travailler pour l'armée. Il a décidé de consacrer 2 jours par semaine à Tsahal. Il a été bouleversé par le travail qu'il a fait pendant le 7 octobre. Au début, il s'est dit, oh là là, c'est administratif, qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est pas super fun. Mmh. Et finalement, il se retrouve en contact avec des blessés très graves, avec des familles. Il a vu comment il pouvait aider, un sourire, une parole. Et puis surtout, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il a dit, mais c'est ils sont tellement forts. Il m'a dit, je voyais des petits jeunes tatoués, rasés, je les aurais même pas regardés dans la rue. Mmh. Et finalement, c'est eux qui nous défendent, ils sont absolument extraordinaires. Il y en avait qui étaient vraiment blessés très graves. La seule chose qu'ils demandaient à leur réveil ou au cours de leur rééducation, c'est quand est-ce que je repars. Il nous raconte ça avec des étoiles dans les yeux, en se disant que vraiment, on est un peuple complètement atypique, extraordinaire.
C'est-à-dire certains juifs, certains israéliens, enfin, se sont révélés à ce moment-là, à un moment dramatique, au moment dramatique du 7 octobre, et finalement, une révélation.
Oui, Oui, bah vous savez, quand on à un moment on parlait en France de la génération bof, bah c'est exactement la même chose. On a l'impression qu'ici, à Tel Aviv, allez, chacun vit pour soi, etc.
Oui.
Finalement, c'est fou. On est tous des frères, oui. Chacun, malgré les différences, malgré les divergences,
oui.
Bah tout a été mis de côté. Et quand il a fallu partir se battre, bah, tout le monde est parti se battre sans se poser de questions, sans demander ni le degré de religion, ni le contexte politique, rien du tout. Mmh. On est là, on est sur cette terre et on doit la défendre. Il n'y a pas le choix.
Lama anarnupo.
Hein,
lama anarnupo.
Voilà, c'est exactement ça. Pourquoi nous sommes là, tout à fait. Mmh. Ouais, c'est exactement ce que Menachem Kalmazon a dit dans son discours. On reconstruira ce qui a été détruit. On n'oubliera pas nos frères. C'est une guerre identitaire. On va la gagner malgré tout, malgré la difficulté. Voilà, c'est un message d'espoir vraiment très fort, quoi.
Merci.
Je reviens sur ça parce qu'il nous a tous bouleversés.
Et ce sera la jolie phrase de fin. Merci infiniment, Cathy. Cathy Choucroune, qui est journaliste sur le média Qualita, Studio Qualita. On peut vous retrouver tout simplement en tapant sur un moteur de recherche Qualita, Cathy Choucroune, et on pourra vous voir sur cette web TV. Merci infiniment, Cathy. On pense à vous et puis à très bientôt sur Radio J.
Et le ciel, tu ne seras jamais plus belle.